fashion. Some souls stay off balance. Can you rhyme without capping? Can you spit without jacking? New flows fresh out the window. Vibration comes straight from the end.
Salut, ici Lisa Kepinski. Vous écoutez Choc.ca. Bienvenue à ce 215e épisode des Amazones! Ouais!
Yeah!
Youhou! Je voulais commencer relax, parce que c'était toute une journée. Aujourd'hui, je suis allée à l'école secondaire où je travaille. Ils m'ont donné les clés de l'école.
Wow!
Je me suis sentie...
importante.
Ben, comme si je faisais partie un peu de la famille, là. Puis c'est autour d'un petit truc, t'es autour de mon cou. Fait que c'est comme si on me disait comme, ben voilà, là, t'es autonome, tu peux rentrer chez vous, tu peux revenir à l'école comme tu veux, puis tout ça, avec ma petite clé autour du cou.
Ouvre pas la porte à personne.
Non. Comment ça va, Marika?
Ça va, ça va. Aujourd'hui, c'était le retour en classe.
Oui.
Pour de vrai. J'ai rencontré mes élèves dans ma salle de classe.
Quel niveau secondaire?
Toujours secondaire 3.
C'est toujours secondaire 3.
On ne change pas les bonnes vieilles habitudes.
Puis ça se passe bien avec ton nouveau groupe?
Très, très bien, oui.
Puis là, le français en secondaire 3,
mm-hmm.
il y a de la poésie?
Ouais, on fait un bref retour sur la poésie en commençant pour aller vers la chanson.
OK.
Après, on fait le conte, puis on termine avec le texte explicatif.
Oh my God!
Mm.
Quelle belle année!
Mm-hmm. C'est pas pour rien que... je garde ce niveau.
Hey, le pire, c'est que hey, c'est drôle que tu dises ça parce que j'avais des liens à faire avec un conte puis une œuvre de fiction qu'on va parler bientôt, mais je vais en garder un petit peu derrière la cravate pour ça. Mais ouais, le conte. Mm-hmm. Isabelle?
Bonsoir.
Ton opinion sur le conte? ou le texte explicatif? Là,
ben,
c'est
sérieux, ça m'a replongé dans mon secondaire. Puis moi, j'étais ce qu'on appelle une grosse nerd. Et j'étais bien à l'école. J'aimais pas ça, mais j'étais bonne. Fait que c'était facile. Fait que je m'ennuyais beaucoup. Et le bout de texte explicatif, c'est toujours le bout où je faisais « ça me tente pas ». Moi, le conte, la poésie, la chanson, ça m'allait vraiment. Et, et c'est ironique parce que maintenant, je fais juste ça, m'expliquer tout le temps puis argumenter constamment. Fait que c'est ça. Hein, une chance, j'ai pas écouté à l'école, je serais vraiment meilleure et ça serait rochant pour beaucoup de personnes.
On les salue.
Oui.
Mais je suis contente qu'on rit parce qu'aujourd'hui, on va parler d'humour.
Mm-hmm. Ah oui.
C'est spécial parce que en fait, on va éventuellement parler d'une autre série qui parle d'humour. Et là, on s'est dit, bon, en tout cas, il y avait des affaires qui se passaient qui ont fait « Ah, on ne pourra pas parler de ça cette semaine finalement. » Fait qu'à la place, on parle d'une autre série d'humour. Donc, une série de HBO qui est à sa deuxième saison diffusée en ce moment sur HBO Max. Donc, si vous êtes au Québec, vous pouvez l'écouter sur Crave ou vous pouvez l'écouter sur Pirate Bay Plus. Mais dans tous les cas, cette série qui s'appelle Axe, donc sur deux saisons, puisqu'on a décidé qu'on allait parler de ça assez récemment, là, il n'y a même pas 48 heures, j'ai écouté 8 épisodes. Sur les 18. Fait que je vous laisse me corriger, surtout si pour la deuxième saison, peut-être plus faire un complément d'informations sur l'intrigue, dis-je, donc de la deuxième saison. Mais si on revient donc à la prémisse de départ, donc on a un personnage qui s'appelle Deborah Vance, qui est une personne qui fait du drôle dans la vie, donc qui est une je cherchais le bon mot, là, mais en tout cas, qui est une vétérante dans le...
Une légende du stand-up.
Qui serait l'équivalent, j'ai l'impression, aujourd'hui, là, mettons, au Québec, là, je vois un genre, pas dans le style du mot, mais tu sais, comme une Lise Dion, là, tu sais, un monument qui est comme rendu dans la 70aine avancée.
Ben, je pense que ça aurait été plus judicieux si Lise Dion avait commencé dans la vingtaine.
Ouais, je comprends ce que
qui
tu
est
veux
comme
dire.
Pas le cas. Je pense qu'on n'a pas d'équivalent féminin au Québec de ce que Deborah Vance représente dans la série, pour être bien honnête.
Vision a commencé à quel âge?
Vision a commencé dans la quarantaine.
Ah ouais, mon Dieu, d'accord.
Oui, c'est une late bloomer de l'humour.
Parce que j'avais l'impression qu'elle avait commencé plus tôt, mais en même temps, c'est parce que vraiment elle était déjà quelqu'un quand moi, j'étais petite. Mmh. Et c'est peut-être pour ça que j'ai l'impression que le comparatif
en fait,
se fait.
Mais en fait, elle a explosé quand nous, on était jeunes et qu'on regardait les galas à la télé.
C'est ça. C'est, hein?
C'était ses premiers galas, littéralement.
Fait que c'est une espèce plus, tu sais, André Sauvé, là, late bloomer, comme tu dis. Fait oui. Peut-être plus une Clémence Desrochers, mais 30 ans plus tard,
mais je te dirais, Clémence est plus proche de ce que symboliquement ça représenterait au Québec, oui. Oui,
parce que comme... c'est pas du tout le même style d'humour parce que c'est pas la même époque.
Non.
Mais dans le sens de, tu sais, comme quelqu'un qui est comme là depuis tout le temps.
Oui.
Qui fait du drôle.
Et qui est pas forcément identifié non plus comme encore dans le coup, entre guillemets.
Ouais, OK, je comprends ce que tu veux dire.
Tu sais, il y a quelque chose de...
Alors que Lise, elle est encore dans le coup, mettons.
Ben, en tout cas, elle essaye, tu sais. C'est pas comme... Clémence, elle a ses spécialités. Elle a fait son affaire, mais c'est un moment dans l'humour au Québec où est-ce que, mettons, même le mot stand-up, le concept de stand-up américain, ça n'existait pas. Mm-hmm. Le concept de stand-up aux États-Unis, très, très établi, puis Deborah Vance a fait partie de cette mouvance-là, des premières femmes qui ont commencé à en faire, mais comme n'importe qui vieillit, elle s'est comme étiolée, tu sais.
Puis assez spécialisée, comme tu dis, avec un certain public. Puis c'est ça, en fait, c'est que on parlait de légende qui s'est, comme notre Céline nationale, donc a posé résidence il y a 40 ans à Las Vegas et qui donc est dans le même club, fait à peu près le même matériel, donc depuis probablement très, 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 très longtemps.
Ben, tant qu'elle fait pas une tournée, il y a pas quelque chose de neuf qui se passe.
Ben, c'est ça. Et son chemin sera chamboulé par, l'arrivée dans sa vie de Eva, mais dont le nom de famille, parce qu'on en parle, Eva Daniels, parce qu'on... Elle, on l'appelle jamais par son nom de famille. Eva Daniels, donc une jeune autrice, donc de 25 ans, qui écrivait comme un peu comme, je pense aussi ça c'est différent du Québec, mais tu sais comme justement tu sais les auteurs font de l'humour-ish, mais font de la série-ish, font peut-être du blog-ish, tu vois ce que je veux dire? Tu sais cette espèce de, il y a un terme pour ça aux États-Unis, j'ai oublié, mais j'oublie mes mots, hein. Ça paraît-tu que je suis fatiguée puis que ma journée a commencé à 6h30 à matin? Mais il y a un terme pour ça quand on parle de ces personnes-là qui sont comme auteurs sur plein de multiples projets. Si ça me revient, je vais le googler pendant que vous parlez, mais je le sais que je me cherche, ça me gosse. Tout ça pour dire que Eva Daniels, donc, qui aurait fait un tweet qui a été mal reçu. Si on pourrait revenir, parce que j'ai aucune colisse d'idée pourquoi ça a été mal reçu, là, parce que c'était comme vraiment pas si pire que ça. En fait, ça va être une de mes critiques de la série, là, mais on y reviendra plus tard. Mais bref, ça pour dire qu'elle est comme cancel, on va dire comme ça, du moins de son milieu de travail, là, les gens ne veulent plus l'engager, parce qu'elle est considérée comme trop imprévisible et trop impulsive et pas très agréable à travailler avec. Ce qui est comme un lien qu'on peut faire avec Deborah Vance, qui est considérée comme un peu justement de comme... le cliché de la starlette qui comme tout lui est dû puis qui a un peu tout puis qui peut un petit peu tout acheter parce qu'elle a tellement d'argent qu'elle peut tu sais c'était
elle a pris l'habitude d'un certain train de vie on va dire
et non seulement ça qui se dit au lieu de suivre les lois je vais payer des amendes pour continuer à faire exactement ce que je veux parce que je peux m'acheter cette liberté-là. Ouais,
je vais continuer à arroser mon terrain, je vais payer, c'est pas grave.
Ouais, exactement.
Même si la sécheresse règne en Californie et au Nevada, se meurt, là.
Elle est légèrement excessive, disons.
Oui,
ceci.
Oui, oui.
C'est ça, c'est ostentatoire, sa richesse. Mais tout ça pour dire, donc, que ces deux personnages-là, dont le destin semblait ne pas pouvoir les rendre grandes amies, même collègues, voire connaissances, donc, va les rapprochés par elles ont en commun le même agent.
Oui.
Donc les deux vont s'entraider à se sortir d'une situation épineuse. Deborah qui semble traîner de la patte au niveau de l'humour et Eva donc qui n'arrive plus à travailler. Et tout ça rempli de personnages les plus loufoques les uns que les autres. Ça, c'est pas mal l'intrigue de la saison 1. Comme je disais, moi, je suis rendue à l'épisode 8. Qu'est-ce qui se passe dans la saison 2?
Oh, c'est parce qu'il se passe beaucoup de choses dans 9-10, hein?
Ah, ben c'est ça, là.
Je vais être obligée de te spoiler des choses.
Ah, ben c'est correct.
Donc, à la toute fin de la saison 1, Eva se fait approcher par des producteurs de séries...
britanniques.
Oui, ben,
ça, je l'ai vu. Fin de l'épisode 8.
Qui veulent produire une série où ils vont pasticher Deborah Vance comme étant... la diva qu'elle est, mais en pire, et veulent recueillir de l'information de ses employés pour pouvoir s'en inspirer pour faire la série. Et Eva décide de collaborer à un moment et se rétracte à la dernière minute, mais le mal est déjà fait. Elle a confié beaucoup, beaucoup de secrets très, très privés sur sa patronne à ses producteurs de séries. Et
après un événement quand même assez troublant.
Où, tout à fait.
Où Deborah frappe au visage Eva.
Eva, et elle se dit, bon, c'est fini, cette mm-hmm. vieille maudite-là va payer. Et c'est quand elle regrette à la dernière minute d'avoir posé ce geste, il est déjà trop tard. Et
Eva, c'est Deborah qui regrette son geste.
Eva qui mm-hmm. regrette d'avoir divulgué les secrets sur sa patronne. Et sa patronne lui annonce en fait au dernier épisode, elle finit par présenter le spectacle sur lequel les deux ont travaillé ensemble mm-hmm. et elle fait un bid monumental. Et ce qu'elle finit par dire à Eva, c'est « J'ai bombe, mais j'ai tellement trippé, on prend ça puis on part en tournée. »
Ah ouais, hein?
Ouais, et elle n'est pas au courant encore que Eva a répandu tous ses secrets de personne exécrable au monde. Et là, on finit là-dessus, saison 1, quel malaise. Mm-hmm. Et saison 2, c'est Eva qui essaie de dissimuler tout ça le mieux possible, jusqu'à temps qu'éventuellement ça se sache. Et,
ça dure pas trop longtemps.
Ça dure pas trop longtemps, non?
Dans le troisième épisode, je pense qu'elle lui révèle. En fait, oui, elle lui révèle par elle-même. Au moins. Ça, même si Jimmy lui disait, tu y en parles pas autant qu'elle le découvre pas.
C'est
là,
ça, mais... Fantaille avec ça. Puis finalement, elle a comme juste let it out. Et contre toute attente, Deborah la garde, son emploi. Mais,
voilà. Oui, mais contre toute attente...
Elle n'a pas tant de choix, si tu veux, mon avis.
Ben, pas juste mais... ça, là, tu sais, je veux dire, là, j'ai juste vu 8 épisodes, là, mais je veux dire, tout ce qu'elle tolère chez sa fille, puis clairement, Eva, c'est la fille qu'elle aurait aimé avoir, mais qu'elle n'a jamais eue. Fait que si elle peut partenaire à sa fille de faire des affaires fucking épouvantables depuis des années, je vois pas comme pourquoi est-ce que là, le fait que Eva en a profité, tu sais, je veux dire, elle se laisse... Elle laisse les gens profiter d'elle aussi.
Ouais, mais en même temps, l'autre, elle aime savoir quelqu'un avec qui jouer aussi. Là, on s'entend uh-huh. que tu sais, c'est sa petite souris, puis elle, c'est le gros chat. Là,
ouais.
Fait que dans le fond, le trip de pouvoir la torturer et lui remettre sous le nez toutes ses erreurs est très très alléchant pour une personnalité comme ça. Donc, grosso modo, un peu ça qui se passe mm-hmm. tout le long, jusqu'à temps que.
Mais là, la menace de la poursuivre, oui. Là, elle finit. Eva trouve que Deborah est soudainement très généreuse et très gentille de sa personne, jusqu'à ce qu'elle lui dise, ben, je vais te poursuivre. Puis elle joue un petit peu avec cette menace-là, fait du chantage tout au long de la saison 2 en disant, ben, de toute façon, ton condo est à moi, bon, et ainsi de suite. Donc, cette relation-là, ça devient une blague, là, même, là, entre elle-même. Eva en rit un peu, au final.
Oui.
Parce que je pense, mais là, je suis pas certaine, qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui lui dit, moi aussi, elle m'a déjà dit qu'elle allait me poursuivre, puis finalement, on n'en a plus jamais parlé. Fait mm-hmm. Je pense que Eva compte aussi un peu là-dessus, mais... Mm-hmm.
Bon, entre-temps, Eva, son père va décéder.
Mm-hmm. Assez soudain, ça.
Oui, très subi. C'est ça. Scénaristiquement, j'ai pas encore trouvé si c'était un Deus Ex Machina ou si c'était mm-hmm. vraiment comme un plan très... précis de pourquoi on allait faire ça. Mais bref, le père décède. Et,
il est comme très malade dans saison 1, tu sais.
Mais c'est rapidement nommé qu'il est malade.
Oui.
Puis là, tout d'un coup, il est mort.
Ben, on le connaissait pas. On le rencontre dans mm-hmm. saison 1. Tu sais, il y a comme des tubes dans le nez, puis tu sais,
sa mère... Il veut tout le temps aller la rejoindre, là. Il dit tout le temps qu'il veut aller la voir, mais ben, là, moi, la mère...
C'est ça, tu sais, moi, je le voyais un peu venir, ce que vous me dites, parce que tu sais, le fait qu'il insistait tant pour aller la voir, moi, je trouvais que ça sonnait comme quelqu'un qui c'était ses derniers instants.
N'empêche que c'est arrivé pas mal pile poil au moment où on avait besoin de ramener tout ce monde-là ensemble. C'est un peu ça qu'on veut dire.
Okay? Ouais, je comprends.
Et justement, Debra Van se pointe au, ouais. littéralement. Chez Eva, dans sa famille.
Après lui avoir fait sentir mal du fait qu'elle quittait pour les funérailles de son père, bien entendu, mais quand même, après, elle se reprend bien.
Oui.
Mais bref, le mot que je cherchais tantôt, c'était « editor ».
Oh, oui. Ah,
parce que c'était ça, tu sais, comme que souvent, mettons, il y a des gens qui sont « editors », mais qui vont comme, donc, performer de la comédie, animer des trucs un peu humoristicaux, bloggy show.
Si je peux me permettre,
ben oui.
Beaucoup de monde aux States qui font ça, qui sont writers, staff writers pour X, Y personnes et qui le soir vont performer dans des comédies clubs.
Ben c'est sûr.
Ils sont pas nécessairement des légendes du stand-up à proprement parler, mais gagnent super bien leur vie, tu sais, mm-hmm. en écrivant des blagues tous les jours.
Ben c'est pas pour rien, tu sais. Pendant longtemps, tu sais, Debra Vance. Elle avait un show, tu sais, avec son mari, son ex-mari.
Oui, l'ex-mari. Dit,
qui lui aussi meurt, mais on le connaît pas. Mais tu sais, pour dire que son, tu sais, qu'elle a joué, mais tu sais, comme elle a surtout fait du stand-up, mais elle aurait comme joué dans une série, genre, qui s'inspire de leur vraie vie. En tout cas, comme au début de leur carrière. Là. Oui. Puis c'est
ben
ça.
À la Lucille Ball, tu sais, ils ont repris ce genre de.
Ouais. Parce qu'on dirait vraiment. On dirait vraiment qu'il y a comme une espèce de logique dans la vie que, comme, t'écris de l'humour, puis genre, tu fais du stand-up, mais le endgame, c'est d'être comme acteur. T'sais, c'est de jouer des personnages avec. J'ai l'impression, dans aux États-Unis, là, je veux dire.
Ben, en fait, le endgame, c'est qu'aux States, tu sais. Comment je dirais ça? J'ai l'impression que le marché, il est tellement gros que tout le monde peut se permettre de faire tout plein d'affaires, puis c'est moins... T'sais, au Québec, il y a comme une espèce de rivalité weird qui est en retenue, t'sais, par certains acteurs vis-à-vis, mettons, certains humoristes, en faisant les humoristes volent les jobs des acteurs, t'sais, mais dans la... puis ça tend à disparaître parce que le monde se rend bien compte que c'est deux jobs, puis que, t'sais, si t'es pas bon acteur comme humoriste, tu vas pas travailler comme acteur dans un marché minuscule et consanguin comme le Québec. Mm-hmm. Mais aux États-Unis, c'est comme de facture normale qu'un humoriste, ça fasse plein d'affaires.
Mm-hmm.
Les stand-uppers purs, c'est comme... C'est eux autres les puristes, t'sais, c'est ceux qui... moi, je fais juste des shows habillés en noir devant mon mur de briques, puis je fais des jokes politiques, puis hors de question que je vende mon âme à la TV.
Mais en même temps, dans ce marché-là,
c'est les puristes,
tu peux faire ça, puis gagner très bien ta vie, tu sais.
Juste le mur de briques, peut-être pas.
Oh, mais tu pourrais quand même avoir une... Tu pourrais quand même vivre, là, tu sais. Je sais pas si, au Québec, juste le mur de briques, tu peux pas vivre, là.
Non, mais tu sais... Je sais pas jusqu'à quel point tu peux vivre de juste le mur de briques en n'ayant pas de job alimentaire à côté aux States, parce que semblerait que c'est vraiment rough.
Ben, beaucoup d'appelés, peu d'élus.
Oui, complètement. Mais tu sais, il y a aussi le concept de, tu sais, je sais pas, à New York, il y a ça beaucoup, tu vends des billets pour ton show.
Mais
c'est devant les clubs.
C'était le lien que je voulais faire avec Eva, en fait. C'est que Eva, son endgame à elle, ça serait de retourner d'écrire dans la TV puis d'écrire des séries. T'sais, elle veut comme écrire une série clever. T'sais.
Elle veut-tu quelque chose de connu? Elle vise The Office, tu sais.
Ouais, c'est ça. T'sais, ou The Office ou genre une espèce de série. Tu sais, comme à Shrill, mettons. J'ai l'impression que. Tu sais, comme une espèce de série comme ça. Fait que, tu sais, comme écrire du stand-up, j'étais comme. OK, c'est pas une writer de stand-up, là, tu sais.
Ben, visiblement, un peu quand même.
Mais un peu, mais c'est ça, c'est pas très développé, je trouve, son pédigré.
Ouais, mais en même temps, le range des writers aux États, c'est ça, tu sais. Ouais. C'est d'être pas confiné à une affaire. Tout le monde écrit sur plein de trucs. Tu sais, si tu lis des livres de personnes qui... Tu sais, parce qu'il y a ça aussi, là, aux États-Unis, quand t'atteins un certain niveau de fame, t'écris un livre. Puis,
ben, comme Tina Fey.
Oui,
là,
exactement. Comme Tina Fey, qui est vraiment... qui écrit un très bon livre, on va se le dire, là. C'est extraordinaire.
Comment il s'appelle déjà
Girl
son...
Girl Boss.
Girl Boss, ouais,
Girl
c'est
Bossy,
ça.
Girl Boss, Bossy Pants. Bossy Pants, excusez. C'est vraiment bon. Pour vrai, j'adorais ce livre-là. Puis c'est le fun quand elle explique son parcours, parce que... Il y a pas de mots pour décrire ce qu'elle est tant que ça.
Mm-hmm.
C'est pas quelqu'un qui va dire « Moi, je suis une actrice, puis j'ai fait telle formation classique, puis machin. » Non, non, elle a fait de l'impro à telle place, après ça, elle est allée écrire pour SNL, après ça, elle est allée faire... Puis il y a mille affaires qui implique de jouer, puis d'écrire, puis de produire, puis de machin. Puis c'est comme une carrière qui est comme une gigantesque balle de laine, tu sais, comme filée, cardée à la sueur de son front, puis que la laine ne matche pas d'un bout à l'autre. Tu sais, c'est vraiment une grosse pelote multicolore de machin. Mais ça serait difficile de dire de Tina Fey ce qu'elle est réellement, parce qu'elle a fait un peu de tout. C'est une fille drôle.
C'est quelqu'un qui fait du drôle.
C'est une funnée. Mais à part de ça, je te mets au défi de me dire qu'elle est plus comédienne que
productrice, autrice, que
même stand-up, elle en a fait un peu, que improvisatrice, elle a fait partie d'une grande troupe d'improvisation à Chicago. Second Station, je pense, qui est comme super connue. Fait que, tu sais, Second Circuit, je suis pas bonne avec les noms en anglais à soir, ça me vient pas. Mais bref, c'est une troupe à Chicago super connue. Toutes les grands de l'humour, genre, aux States, sont passés par là. Mm. Le monde qui font ça, là, jouer, écrire, produire, etc.
Mais ça, c'est quelque chose que j'ai tellement aimé du personnage de Deborah Vance. C'est le fait que elle est... Tu sais, on lui impose Eva comme autrice, puis ce serait la première fois que quelqu'un travaille avec elle pour écrire. Ça c'est fou là quand même là. Quelqu'un de cette envergure là, quelqu'un de puis qui a dit genre j'ai 40 000 jokes, c'est tout moi qui les ai écrits. Puis ça j'étais comme wow, ok, c'est quand même une belle ajout. Je sais pas si c'est réaliste, mais je trouve que c'est un bel ajout à sa profondeur de personnage là quand même là.
Je pense que c'est réaliste dans une certaine mesure. Il y a pas beaucoup de monde qui font tout de A à Z, et il y a certaines personnes que je nommerais bien parce que c'est le cas, mais son cancel. Fait qu'on va pas en parler. Mais.
Qui faisait tout de A à Z.
Oui.
Mais il y a des gens aussi que, tu sais, comme, qui font tout de A à Z, mais qui ont plein de gens qui les accompagnent pour la script édition, puis peaufiner peut-être ta virgule, si ta pause quand tu parles, si tu la mets là, c'est plus drôle, puis tout. Alors, ça.
On s'entend, la script édition, il n'y a pas grand monde qui a pas ça, là, mais à un certain niveau. Mais tu sais. Ce qui est fascinant aussi de ce personnage-là, c'est outre le fait que justement, on montre quelqu'un qui a réussi beaucoup. Ouais. Ça, c'est cool. On montre une femme qui a réussi beaucoup. C'est vraiment nice. À une époque où être une femme dans n'importe quoi, c'était compliqué aussi. Là, on s'entend, elle est partie de l'époque où c'était Yark, puis elle est arrivée jusqu'à là. Là.
Mm-hmm.
Fait qu'il y a quelque chose de nice. Mais en même temps, t'as toute cette dynamique-là aussi où on lui dit qu'elle est passée date.
Ouais.
Qu'elle est surannée et que son show il est menacé parce que on veut la remplacer par quelque chose de plus frais.
Ben Pentatonix, y a-t-il quelque chose de plus frais que ça?
Hey, je penserais pas, non.
Non, c'est ça. C'est quand même le gag de la série là aussi là. Tu sais, c'est comme des gens qui font de la musique a cappella, on va les remplacer puis tout ça.
Ouais.
C'est...
Mais son jeune, son cute, fait que ça va attirer d'autres mondes puis on va remplir d'autres salles, tu sais. Puis Il y a quelque chose de le fun de cette idée-là, de ces deux femmes-là, ils se sont rencontrées un peu au moment où ça allait pas bien pour ni une ni l'autre. Mm-hmm. Eva, sa carrière vient d'être sabotée parce que là, le tweet. Puis,
mais on peut-tu en parler du maudit tweet? Je veux dire, c'est ridicule. Je veux dire, comme, je peux pas croire qu'elle se fait cancel à cause de ça. T'sais, parce que, puis ça, c'est une de mes critiques de la série. Là. Je trouve que les blagues sont pas très drôles. Je trouve pas qu'elles sont bien écrites. Du moins. Quand on voit les scènes où est-ce qu'ils se disent des blagues, je trouve pas que c'est très drôle.
Mais moi en fait, ma critique, c'est plutôt, je trouve qu'on voyait pas beaucoup de blagues.
C'est
si
vrai.
On compare à la série de laquelle on voulait possiblement parler.
On va le dire, le Mrs. Maison.
Ouais, oui, voilà. Où on voit beaucoup de blagues jokes sur scène qui sont très bonnes et très drôles.
Que j'ai ri de bon cœur, souvent.
Oui, mais on en voit tellement plus, alors que là, les scènes qu'on voit où elle fait des blagues, souvent, ce sont des spectacles qui ne réussissent pas très bien, fait qu'on nous montre des shows qui sont un peu un flop, fait que...
Moi, j'haïs pas ça. Un bout que j'ai pas aimé de Mrs. Maisel, c'est à quel point ça va quasiment tout le temps bien. C'est pas réaliste du tout.
Ouais.
Sérieux, moi, j'aime l'idée que on montre des shows où ça va
mais,
pas.
Parce que moi, j'ai pas vu son show flopper encore, là, quand vous dites qu'elle a bombe pis que.
On voit pas grand chose.
Mais c'est ça l'affaire, c'est
mais
que.
Mais dans la saison 2, oui.
Oui, vraiment.
La gay cruise, oh la loup, là.
Mais c'est ça.
Ah, c'est tellement drôle.
c'est
cringe, là, mais. J'avais besoin de ça.
Mais parce
vie.
Que souvent, quand ils se disent des blagues, c'est comme décontextualisé, mm-hmm. ou c'est des gens qui se parlent de blagues, mais c'est comme. je trouve pas ça drôle. Tu sais, comme, j'étais comme, j'ai pas, tu sais, j'ai beaucoup d'affection pour les personnes, mais pas tant, là, parce qu'ils sont pas très aimables, mais tu sais, genre, j'ai du plaisir à les voir ensemble, interagir, mais quand c'est, quand ils se lancent des, quand on fait comme des scènes de montage, là, pis qu'ils se disent des blagues, mm-hmm. c'est comme, OK, mais c'est-tu parce que t'avais envie de parler de ce monde-là, mais t'as, la personne qui l'écrit, je sais pas c'est qui, là, je vais essayer de te le trouver, là, mais c'est-tu parce que la personne qui écrit, écrit pas de blagues?
Il y a trois personnes, je pense, qui sont créateurs. Mais je pense, moi, mon impression, c'est que l'intention, c'était pas de que ces blagues-là nous fassent rire. C'était qu'on voit ces deux personnes-là travailler oui, ensemble.
Je suis d'accord. Puis aussi le fait que, tu sais, tant qu'on n'a pas vu un show abouti, là, mm-hmm. je veux dire, ça reste des brainstorms qu'on voit, là. Moi, je trouve ça le fun, honnêtement, parce que c'est ça, le milieu dans lequel j'essaie d'évoluer.
Je sais pas. Mm-hmm. Mais tu sais. Je pense que c'est plus que le fait que les blagues sont pas contextualisées, pis là, c'est comme un montage de genre de gens qui se pitchent des mots pis qui rient pis tout ça, pis je fais comme, ah, ça a l'air forcé. Pis je me mets à leur place de jouer ça, pis je me dis, ah, ça doit être forcé, tu sais. Je sais pas.
Pas tant. Moi, je trouvais ça plutôt, en fait, juste, par rapport à c'est quoi le craft maintenant, genre. Tu sais, moi, honnêtement, Mrs. Maison, ça m'a un peu rushé que, justement, des fois, elle arrive à des places, elle a rien décrit, elle a rien travaillé oui. chez eux, t'as rien vu. Puis là, soudainement, elle fait genre de l'impro, puis tout le monde est plié en deux. Je suis comme, OK, ouais, là, mais non. Ouais.
Mais en même temps, il justifie ça par le fait qu'elle a comme sa crowd à la même place, là, tu sais, qu'ils la connaissent. Puis tu sais, moi, je trouvais que c'était justifié dans le sens, je veux pas qu'on fasse le show sur
Mais
le comparatif est difficile. Tu sais, c'est comme deux séries actuelles mais moi, sur ouais. l'humour.
Mais tu sais, moi, je t'en parle de filles qui fait ça, puis que c'est ça la job. Puis honnêtement, beaucoup plus de scènes où est-ce qu'on écrit des blagues pas drôles, puis qu'après ça, on s'en va pleurer dans la douche. Ouais. Je suis très contente qu'ils mettent pas ça dans Hacks, d'ailleurs, le bout où on pleure dans la douche, il y en a quand même un peu, OK? Puis, on est dans cette anxiété-là, c'est pas simple, puis je trouvais ça plus réaliste. Tu sais, c'est un... En ce moment, le problème, c'est que vous êtes avec une fille qui fait ça, fait que ça donne l'impression de, tu sais, la police qui regarde District 31, ou ben non, le chantologue qui va regarder
ça. C'est pas fiction romancée, là.
Mais je pense que c'est pas romancé.
C'est plus que quand je pense... Mais peut-être que c'est voulu, mais parce que je sais pas c'est quoi l'intention qui... Mais en même temps, j'ai pas écouté les 18 épisodes, j'en ai écouté les 8 premiers, mais c'est que des fois, j'avais l'impression que c'était comme... On dirait que Eva devrait arriver de vrai... Comment c'est présenté dans la série, on dirait qu'elle devrait arriver comme la personne qui va vraiment l'aider à repuncher son texte. Puis je suis comme, ben quand elle essaie de pitcher des blagues, elles sont pas si drôles que ça. Fait que je me dis comme, peut-être que c'est parce que finalement ça parle pas tant d'humour, tu sais, que ça. Tu sais, je pense
c'est
que
plus
ça.
Plus les relations humaines, j'ai l'impression qu'ils prennent le dessus.
C'est
là.
Ça, parce que j'ai vraiment l'impression qu'on met plus en face sur les conflits générationnels, les enjeux de pouvoir, les enjeux hommes-femmes, la santé mentale, le fait de prendre soin de soi. C'est vraiment plus finalement le milieu de l'humour, c'est plus une excuse, je pense. Ça aurait pu être autre chose, puis on aurait pu avoir ce show-là.
Tous les milieux de travail, dans tous les shows, c'est tout le temps une excuse.
Mais des fois, des fois, ça prend plus de place.
En effet.
C'est comme, mettons, The Office, on s'en fout qu'ils vendent du papier,
mais
il aurait pu vendre
si ça avait pris plus de...
Puis je rentre à saison 2 quand même.
T'es rendu à saison 2 puis tu sais pas qu'ils vendent du papier?
Non!
Wow!
Mon chum me l'a demandé cette année, il dit, c'est quoi leur compagnie?
Hey, attends de pogner la saison 7, où est-ce qu'ils vont se mettre à vendre d'autres affaires, tu vas capoter. Mais bref, j'ai l'impression que si ça avait pris plus de place, t'aurais probablement été encore plus déçu de la qualité des jokes que t'aurais entendu.
Ça, c'est sûr. C'est sûr.
Je veux pas être plate, mais si tu mets plus de place à l'humour, tu mets beaucoup de place à l'édition de blagues. Uh-huh. Et honnêtement, c'est la job la plus prenante quand t'écris des jokes, c'est éditer après. Parce que tu peux être une mine sans fond de brainstorm. Si ça rit pas, man, faut que t'attues ta blague. C'est triste.
On a parlé beaucoup de Deborah, puis on a parlé un petit peu de Eva. Moi, je pense que Deborah, c'est quand même un personnage plus intéressant que Eva, à mon point de vue.
Ah, tu vois, moi, je suis pas d'accord.
Mais j'aimerais ça savoir pourquoi.
Moi, j'aime vraiment mieux le personnage d'Eva, mais c'est aussi parce que je crois que je m'identifie beaucoup plus au personnage d'Eva. Puis moi, il y a plein de moments où j'étais vraiment fâchée contre Deborah. Il y a beaucoup de moments où j'étais fâchée contre Eva aussi. Comme tu disais tout à l'heure, ce ne sont pas vraiment des personnages aimables. On ne s'attache pas véritablement à eux. Puis c'est là qu'on voit que ce sont de très bonnes actrices parce que on ne doit pas les aimer. Elles jouent pour qu'on ne les aime pas. en même temps, elles sont réalistes dans le sens où elles sont imparfaites et on peut se reconnaître dans les défauts de ces personnes-là, si évidemment je ne m'identifie pas à Deborah parce que je ne suis pas une femme de cet âge-là avec une richesse comme celle-ci. Je veux dire clairement, puis on pourra parler de sa relation avec sa fille. Toute sa vie, cette femme-là a été quand même victime de certaines choses qu'elle reproduit par la suite. J'avais dit dans notre conversation que je voulais parler des relations toxiques qui sont multiples dans cette série. Là, à peu près toutes les relations sont toxiques. Et en même temps, on adresse ces choses-là, mais c'est un peu subtil parfois, je trouve. Mais ça, peut-être on pourra en reparler, on peut ne pas être d'accord. Mais Eva, au moins, j'ai l'impression qu'elle est capable de se remettre en question. C'est vraiment plus difficile pour Deborah.
Mais je sais pas. Mais écoute, en même temps, je suis pas rendue
là. Mais ça
va
avec l'âge, je dirais aussi. Je pense que quand t'as été dans ce carcan-là pendant 60 ans, un moment donné, tu normalises ces comportements-là, même si tu sais qu'ils sont problématiques. Alors que Eva, elle est encore toute jeune. Elle a à se prouver. Je dis ça avec des gros guillemets, là. Mais quand même, fait elle est plus facile à revenir sur ses décisions. Parfois trop, selon moi. Parfois, elle s'excuse rapidement, alors qu'elle était pas dérangeante dans ce qu'elle a dit, ou au contraire, c'était bien qu'elle le dise, mais parce que Deborah a une autre façon de penser et qu'elle a une certaine autorité sur Eva. Moi, c'est ça qui m'a vraiment dérangée. Je dis pas que Deborah est pas intéressante. Elle est super intéressante. L'actrice est géniale et tout ça. Mais, mettons, j'étais beaucoup plus souvent d'accord avec Eva et j'avais beaucoup plus d'empathie pour Eva que pour Deborah.
Mais tu vois, c'est parce que je trouvais que des fois, en même temps, peut-être que j'aurais une autre opinion. Moi, j'aime ça changer d'opinion, là. moi, mes opinions, là, j'y tiens pas, là. Tu sais, comme, non, mais.
Wow! Non, mais c'est la phrase la plus non-milléniale que j'ai entendue depuis très longtemps.
Non, mais dans le sens, tu sais, comme, moi, je suis capable de dire avec bagou, je pense, où je suis rendue dans ma réflexion, mais ma réflexion peut évoluer. Hey, la preuve, c'est House of the Dragon. House of the Dragon, premier épisode, je l'ai dit, j'ai fait comme, qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Genre, j'étais vraiment comme, ça marchera pas, là, tu sais, comme, deuxième épisode, j'étais comme, c'était génial! Mais tu sais, puis c'est pas, ça m'identifiait pas, genre, j'étais comme, là, maintenant, il faut que je reste dans ma position, parce que j'ai dit qu'au premier épisode, c'était ordinaire, tu sais, c'est comme, moi, j'ai dit, hey, j'ai... Puis en plus, j'ai zéro orgueil. Fait qu'après ça, là, il n'y en a pas de problème.
Tout l'inverse de moi.
C'est quand même des choses qui t'honorent. Des fois, c'est compliqué d'avoir des opinions arrêtées, là.
Et de l'orgueil.
Ah, mon Dieu, oui.
Mais bref, ce que je voulais dire, c'est que, tu sais, dans le sens que de ce que j'ai vu, c'est parce que je pense que l'espèce d'attitude, des fois, de Eva, de call out des affaires sans prendre le temps de tout comprendre, ça me gossait un peu. De la même façon que ça me gosse que Deborah, on essaie de la décrire comme un personnage, comme, non, mais dans le fond, c'est parce que je comprends la game. Puis c'est comme, tu comprends la game, puis je comprends que t'arrives de loin, puis que t'as travaillé fort, puis que tout ça. Mais c'est vrai, tout ce que tu te fais call out quand même, tu sais. Fait que c'est un peu cette espèce de mélange-là où je suis comme, ces personnages-là, clairement, ne s'aident pas tant que ça. Ça, puis, tu sais, oui, ils vont s'aider peut-être au final, mais on n'est vraiment pas dans une dynamique. Tu sais, ces espèces de shows-là, puis c'est un lien que je voulais faire avec les shows HBO, parce que je disais ça à Marika avant qu'on rentre en onde, je dis, moi, je trouve que les shows d'HBO, de ce type de ton-là, très différent, mais mettons Entourage. As-tu écouté Entourage, Isa?
Non.
OK, c'est ça. Là, c'est ça. T'as-tu écouté Togetherness?
Non.
Ah, ça, je pense que t'aimerais ça, par exemple. C'est des shows d'HBO qui se passent genre Californie-ish, qui traînent un peu semi autour du monde du cinéma slash le végétariat puis tout ça. Deux types d'écriture complètement différentes, mais il y a un lien, je trouve, à faire avec cette espèce de comme personne est très nice, mais on nous les impose un peu puis on les regarde un peu s'entre-déchirer. Tu sais, un peu feeling, genre... Un peu feeling... tous les films québécois entre 2002 puis comme encore aujourd'hui, là, je sais pas, là. Tu sais, le ton, là, le ton, comment il s'appelle? Les Invincibles. François Letourneau. Tu sais, cette espèce de ton-là où comme personne s'entraide finalement puis qu'on les regarde un peu comme s'entre-détruire.
Moi, j'adore ça.
Mais j'aime ça aussi. Mais j'aime ça aussi le regarder, mais à un moment donné, c'est que le ton de François Letourneau est tellement... comment je pourrais dire, over the top.
Oui, mais en même temps, as-tu vraiment envie de regarder quelque chose de super manichéen tout le temps? Les bons, les méchants.
Non, mais c'est ça, je te dis.
Moi, j'aime ça, les gens qui sont comme entre deux. Ce que je trouve le plus intéressant, je pense, avec le personnage de Deborah, c'est toujours le fait que c'est toujours ben rien qu'une madame avec cette attitude-là. Mm. Je trouve ça vraiment hot. Hey, non, mais
je viens juste de regarder, elle a failli écraser sa sœur avec un char.
Oui, mais ils sont battus pour le mari, eux autres, ces deux-là. Comme...
Fait que, non, mais ça, c'est une autre affaire aussi. Là, tu sais, c'est comme, mettons, c'était plus... C'est, genre, l'affaire du mari, ça t'a plus affecté que, genre, les années d'harcèlement sexuel que t'as subi, que là, t'as eu une illumination à 60 ans qu'il fallait que tu mettes tes culottes pour faire ça.
Mais attends, c'est parce que les années d'harcèlement sexuel, au moment où elle les a vécues, probablement que le mot existait même pas encore. C'était juste tellement, genre,
oui,
normal
c'est ça.
De subir
you get
ça.
Over it, un peu, je veux
mais
dire,
c'est ça,
fait, puis tu
comme,
marches,
mais c'est pour ça, puis je suis comme, OK, fait que tu t'aimes juste comme torturer d'autres femmes autour de toi, là, tu sais, comme... comme
Mais elle a vu juste des gars dans la position où est-ce qu'elle, elle était, fait qu'elle a juste appris de ce qu'elle a vu. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup d'empathie pour cette madame-là, quand
non,
même.
Non, je te dis pas que j'ai pas d'empathie, je te dis... Je parle de ce que je ressens en l'écoutant, tu sais, je suis juste comme... Là, il faudrait peut-être... En tout cas, tu sais...
Moi, j'ai de l'empathie pour elle, sauf que justement, quand Eva, elle lui nomme des choses qui sont problématiques puis qu'elle tente de lui expliquer, parce que je trouve pas que Eva est agressive dans sa façon de dire les choses.
Non.
En général.
En effet.
J'essaie de me rappeler, là, il y a peut-être un exemple ou deux qui viennent dire le contraire de ce que je dis en ce moment.
Mais elle essaye de s'exprimer bien puis de l'expliquer pourquoi ça marche pas.
Tu sais quoi qui me gosse? C'est qu'ils n'attendent pas le bon moment. Tu sais, ils disent tout le temps quand ça vient d'arriver. Puis c'est comme, mais c'est sûr que la personne n'aura pas une bonne réaction. Tu sais, je veux dire, tu vas dire à ta fille devant toutes ses invités que c'est qu'elle doit avoir un prenup. C'est sûr qu'avoir un prenup, c'est une meilleure idée. Mais devant tout le monde, c'est comme, prends 15 minutes. Dis à la fille, comme, je viens de servir un verre. Puis c'est comme, c'est, je sais pas. Je
sais que la plupart des gens, ils ont pas de tact.
Mais je comprends, mais tu sais, je veux
dire. Non, mais ouais, ouais, c'est ça. Mais cette scène-là, elle était particulièrement malaisante et problématique. Mais tu sais, ça reflète toute la relation de DJ et Deborah, là, tu sais, ouais. Qui est souvent adressée. Tu sais, ne serait-ce que le moment où Eva apprend que DJ vend des photos qui montrent sa mère dans des circonstances plus ou moins alléchantes pour elle. Pis qu'elle apprend que Deborah le sait, mais pour que sa fille gagne sa vie, elle laisse faire. Moi, je suis comme, oh my God, que c'est malsain tout ça. Pourquoi vous continuez?
C'est très malsain. Ça part d'une drôle de place.
Puis après, c'est quand même
c'est des bons
généreux.
Oh my guess. Ouais, c'est ça. C'est comme, c'est correct, mais non.
Ouais. Puis c'est parce que c'est parce qu'en plus,
c'est
ça
toujours
faisait,
sur la ligne.
Ça faisait un callback dans l'épisode où est-ce que quand Deborah lui dit. Parce qu'elle dit, ah, oh, tu me laisses jamais rien faire, puis genre, tu prends, tu sais, comme, mm-hmm. C'est comme si tu savais tout ce que je laissais passer, puis genre, tout ce que je fais pour toi. Mm-hmm. Là, c'est comme, délibérément, je me promène en me laissant aller, là, tu sais, en ne faisant pas attention à la façon dont je vais me présenter pour que t'aies des bonnes photos, puis que ça te donne l'impression que tu peux gagner ta vie, tu sais. Mm-hmm. C'est fucked up, là. C'est vraiment particulier. Mais c'est vraiment particulier parce que je suis comme, mais c'est quoi que DJ lui reproche? Puis c'est pour ça que j'ai trouvé ça tellement beau, la scène du discours, où est-ce qu'elle dit, tu sais, moi, je t'ai traînée parce que moi, mes parents, je les ai pas connus. Puis je m'étais promis que j'aimais mieux que tu passes du temps avec moi que je te connaisse pas non plus.
Mais en même temps, le mot traîner est bon dans le sens où, oui, elle l'amenait avec elle, mais je pense pas que...
Je pense pas que c'est une mère aimante,
qu'elle
tant
lui donnait
ça,
de l'amour. Pis, t'sais, c'est pas pour rien que DJ est tombé dans la consommation excessive très, très jeune. Elle avait accès à tout ça. T'sais, elle a vécu dans le luxe de sa mère auprès d'elle, mais elle a pas vécu avec sa mère. Elle a vécu dans le milieu de
ben,
sa
on
mère.
Sent que sa mère, elle a donné ce qu'elle pouvait y donner, puis ce qu'elle pouvait y donner, c'était beaucoup d'aisance financière et un certain train de vie, mais qu'au niveau affectif, elle avait pas les outils, tu sais.
Et un épisode qui est intéressant, tu t'es pas rendu parce que c'est vers la fin de la saison 2, quand on voit Susan, la femme qui voulait devenir comique comme Deborah, puis que finalement elle a décidé de sacrifier sa carrière pour avoir une vie familiale, et Deborah s'en veut parce qu'elle avait comme elle avait rayé son nom des gagnantes dans un genre
de
championnat.
Elle a comme un peu backstabé pour elle avant
de prendre sa place, puis que finalement elle lui avoue. L'autre, elle dit, je me sens, tu sais, je t'en veux pas parce que moi j'ai choisi d'avoir une vie de famille à la place puis tout ça. Puis moi, cet épisode là j'étais juste comme, Déborah, oui, t'as traîné ta fille, mais toi, tu l'as pas eu la vie de famille que Susan, elle, a choisie. Ouais. Fait que, tu sais, je trouvais que cet épisode-là remettait un petit peu, justement, de l'avant. On sait pas tant ce qui est arrivé entre DJ puis Déborah, mais on en comprend que DJ, elle a pas eu une mère qui était présente, aimante et tout ça pour elle. Mm-hmm. Elle a pas fait ce sacrifice-là pour sa fille. Puis, comme c'est correct, là, c'est correct de pas le faire. Mais je veux dire, ça remettait un peu les deux, alors qu'on est censé avoir de l'empathie pour Susan qui s'est faite comme rayée puis qui a pas eu sa grosse carrière. Finalement, c'est un peu plus pour Déborah qu'on se sent mal dans cette
épisode. Oh mon Dieu, à la fin de cet épisode-là, on se sent triste pour elle. Tu sais, ouais, que justement, ça a été comme la parfaite balance, elle l'a pas trouvée. Mm-hmm. Puis en même temps, la parfaite balance existe-t-elle? Puis tu sais, ça met de l'avant énormément, on va se le dire, de réflexion féministe, là,
ben sur
justement
oui,
la conciliation la travail-famille.
Oui, oui, exact. Oui, oui, tout à fait.
Mais bon, bref, ouais, il y a vraiment des moments. Ben, dans saison 2, il y a vraiment des moments où Deborah est dépeinte avec beaucoup plus de, justement, de douceur ou de tendresse.
Ce qui est quand même assez commun dans la plupart de ces séries-là, où mm-hmm. est-ce que, tu sais, comme, ça commence, c'est super gros, puis après, on mm-hmm. en fait, c'est l'un ou l'autre, là. Soit on épaissit les traits, ou soit on les raffine.
Oui. Puis c'est important aussi, de, à un moment donné, que cet entonnoir-là se fasse, là. Mm-hmm. Puis on le sent beaucoup dans l'écriture de la saison 2, justement, que là, ils nous ont brossé le portrait. Là, ils vont travailler les détails, t'sais.
Exact. Mm-hmm. Puis, tu sais, justement, c'est assez logique aussi dans la façon dont la série va, parce que dans la saison 2, on est dans le bus tour. On est plus dans l'intimité de oui. Déborah et de Eva. Puis on dirait que, justement, on apprend à mieux les connaître parce que on est dedans, là. Je veux dire, on est dans leur lit, on est carrément dans leur intimité. Puis ça, je trouvais que c'était assez logique. Puis justement, ça donnait un peu d'humanité à Déborah, ne serait-ce que la scène où elle pogne un one night, là.
Oui.
Moi, ça, je trouvais ça. J'étais comme, oh, c'est quand même cute.
Oui,
c'est quand même beau,
c'était quand même fantastique. Ouais. Oui, oui, oui. D'ailleurs, oh, props à la directrice de tournée.
Ah oui, c'est
un
ça?
De mes personnages préférés de toute la série. Agosse tellement, tu vas tellement. Écoute, tu vas pogner quelque chose, je sais pas ce que tu vas pogner, mais moi, tabarouette, je la trouve parfaite. je veux tout savoir de ce personnage-là. tu sais, des personnages de type deuxième entrée, là, tu sais, qui sont là pour représenter un stéréotype de quelque chose.
Ouais.
Robert California.
Mais de quoi?
Ah oui, mais non, c'est vraiment qu'ils sont là pour représenter un stéréotype de quelque chose, puis que tu fais qui te déconstruisent un peu ce stéréotype-là à chaque minute en te le renforçant encore plus en même temps. C'est particulier, puis elle est vraiment juste là pour puncher. Mais oh my God, que c'est tout le temps hot. En tout cas, moi personnellement, en termes de rôle secondaire, la directrice de tournée, là.
Madame Chagnon dans Léo.
Ah, oh, je sais pas.
Je sais pas, j'écoute pas Léo.
Ah, mais
c'est pas genre ça, la télé normale.
Ah, moi non plus.
Comment t'écoutes ça, ma maudite?
Il y a quelqu'un qui m'a donné son compte et qui m'a donné son mot de passe Elix.
Ah, écoute, que celle qui n'a jamais eu le mot de passe de quelqu'un d'autre lui lance la première pierre. Je salue Andy Jacques pour sa contribution à ma télévision. Mon Dieu Seigneur.
Mais j'aimerais ça revenir aussi sur DJ super rapidement, en fait, parce que je voulais juste dire que c'est Caitlin Olsen qui la joue, qui est quelqu'un qui fait beaucoup de drôles dans la vie. Est-ce que tu as écouté It's Always Sunny in Philadelphia?
Oui.
Ben, c'était ça, tu sais. Fait que j'étais comme...
En effet.
Puis je trouvais que c'était un beau rôle pour elle, parce que on l'a moins vu, contrairement, mettons, à d'autres personnes du show, on l'avait moins vu dans d'autres affaires. Mais en même temps, je trouve qu'on le sent qu'elle, c'est une comique, là. Tu sais, je sais pas si tu vois ce que oui. je veux dire. Parce que elle punch juste. Puis en plus, It's Always Sunny, c'était du cringe. Tout le temps. C'est super cringe. Puis son personnage est cringe aussi, tu sais. Mais elle est capable de jouer juste, elle est capable de jouer plein d'autres palettes d'émotions. Mais elle avait comme tout le temps une petite phrase punch, tu sais, comme elle punchait plus en fin de scène, tu sais. Elle rajoutait comme la petite phrase de trop qui faisait que t'étais comme, ah, oh, c'est vrai qu'elle est niaiseuse ou qu'elle est drôle ou qu'elle est si, tu sais. Je trouvais que c'était un bon choix de casting. Bref.
Complètement. Est-ce qu'on peut parler brièvement de l'agent
Jamie?
J'ai pas grand-chose à dire parce que je le comprends correct, le bonhomme. Il y a beaucoup d'affaires qu'on sait, mais qu'on sait parce que les gens en parlent, mais je sais pas. Je sais pas, si, dans saison 2, il est-tu plus là?
Ben, il est là. Mm. Et je te dirais, c'est rare, moi, dans une série que je vais regarder un homme, je sais pas, blanc, semi-blanc, etc., c'est présumé hétérosexuel qui a des problèmes et que je vais faire « Oh mon Dieu, pauvre gars!
Mm-hmm. »
Mais dans Axe, des fois, je fais « Oh mon Dieu, pauvre gars! Mm-hmm. » C'est compliqué sa vie. C'est compliqué sa gestion de talent. C'est compliqué sa
Son
secrétaire.
Son partenariat avec Kayla, oui.
Oh mon Dieu! Que c'est compliqué.
Que quoi que ça t'a dit?
Kayla,
son assistante, qui est aussi la fille du boss.
Oui. Ben, c'est ça. Mais dans, j'ai pas compris, c'est quoi t'as dit? Juste que dans le fond, il est pogné avec Kayla, c'est ça que t'as dit?
Oui, puis dans la saison 2, il se fait carrément, il vit de l'harcèlement sexuel de Kayla.
De Kayla, oui.
Il tombe dans un hôtel, dans une chambre d'hôtel, puis carrément, tu sais, elle se déshabille, là, il me semble.
Oui,
dans le lit, puis elle entreprend des choses que lui, clairement, il dit non, puis elle continue. Et il s'est adressé, hein, il finit par le dire, oui. Je peux plus travailler avec elle parce que là, il y a ça. Finalement, on voit comment ça tourne. Oui. C'est-à-dire que ils lui disent, ah, ben, on va faire passer ça sous le fait que t'es pas capable de contrôler ta colère, puis tu vas aller suivre des ateliers, puis ça va justifier le fait que tu travailles plus avec Kayla.
C'est lui qui se fait accuser de quelque chose,
qui se fait dire qu'il n'est pas en mesure de contrôler ses émotions, puis pour qu'elle ne soit pas victime de ses crises de colère. Mm-hmm. Il est loin. Et au final, ils retravaillent ensemble.
Oui.
Mais, ouais.
Oh mon Dieu, c'est bien épouvantable comme arc narratif.
Mais en même temps, moi, je trouve ça un peu cocasse parce que je me dis, tu sais, des fois, pour être capable d'expliquer des situations dans la vie, il faut passer par la version où c'est pas des madames qui sont les victimes.
Mm-hmm.
Puis il y a une gang de gars qui vont peut-être pogner quoi la prochaine fois qu'une fille va arriver puis va faire « J'étais victime de harcèlement sexuel et c'est moi qui ai été congédiée. »
Voilà.
Moi, je me dis, c'est peut-être tentative.
Non, je comprends. Mais je pense que la série suinte le message, là. Tu sais, genre, je pense qu'il y a beaucoup de moments où j'étais comme, ça, c'est un message. On nous dit quelque chose. Tu sais, je dis pas que c'est bien, que c'est mal. Je dis juste que, comme, ça paraît, je trouve aussi dans la série, qu'on essaye de nous adresser des choses, puis qu'on essaie d'adresser des affaires. Entre autres, là, vous parlez de cette scène-là, mais tu sais, comme pour moi, la scène où est-ce qu'elle pète sa coche au show d'humour dans l'épisode 8, justement, oui. Où est-ce que j'étais rendue, c'est mm-hmm. la dernière scène que j'ai vue après, j'ai croisé Marika dans le métro, là.
Mm-hmm.
Fait que quand c'était fucked up, puis c'était bien écrit aussi. J'ai vraiment beaucoup aimé comment c'était écrit, parce que ça commence, puis les gens rient pas, parce que c'est comme, c'est pas drôle, là. Tu vois quelqu'un qui est en train de faire un acting out sur le stage, là. Mm-hmm. Fait que là, c'est comme, c'est normal, là, pour les gens qui n'ont pas écouté la série, mais qui écoutaient l'épisode quand même, grosso modo, Deborah se fait call-out par Eva, qui lui dit, ben là, vous avez fait des jokes, toi puis ton ami, sur le fait que les gens qui venaient à ce club d'humour-là harcelaient sexuellement les madames avec qui ils travaillaient, puis vous avez rien dit. C'est parce que là, tu sais, comme dans le fond, t'as peut-être un peu bâti ta carrière en fermant les yeux puis en laissant ces gens-là avoir du succès, tu sais. Puis là, ben, Deborah le prend pas parce que c'était pas le bon timing pour lui dire, mais finalement, c'était le bon timing pour lui dire parce que elle a eu une révélation au moment où est-ce que la personne qui la présente, qui est épouvantable, c'est le fun parce que c'est juste subtilement épouvantable, tu sais, c'est juste des petites phrases clés qui a des rires correct quand même, mais tu sais où est-ce qu'il va dire comme elle est vraiment bonne, votre grande tante l'adore, tu sais, pour dire qu'à quel point, comme dans le fond, tu sais, ça reste que c'est une madame, puis c'est une vieille madame, pis...
tout ça là, tellement réaliste.
Ben c'est
ouais,
ça,
ouais, ouais.
C'est ça,
tellement réaliste.
Fait que là, elle rentre sur stage puis elle fait son acting out où elle call out le gars dans le fond qui est comme, ok, t'es pas bon, t'es pas talentueux, puis en plus t'es sexiste, mais elle dit pas comme ça. Mais là, je résume.
Puis on voit un bout de son set, c'est minable.
Mm-hmm. Ouais, c'est ça.
C'est tellement facile et minable. J'étais mm-hmm. comme, oh wesh, c'est on dirait le gars qui fait son premier bordel.
Ouais, c'est ça, c'est pas
c'est dégueulasse.
C'est vraiment pas bon. Puis elle finit par lui dire comme, faut que t'arrêtes. T'sais, c'est ça, son acting out qui éclate. Puis qu'elle dit, faut que t'arrêtes de faire de l'humour, là. Faut que t'arrêtes. Qu'est-ce que t'as besoin? Fait que là, il dit 69 millions, tu sais, déjà, le niveau, tu sais. Hey, 69, parce que c'est drôle, le chiffre 69, tu sais. Fait que 69 millions. Fait qu'elle dit, ben, gars, je te donne 1,69 millions, pis t'as plus jamais le droit de faire de stand-up pis d'humour de ta vie. Et cette scène-là, elle est vraiment fucked up, parce que j'avais vraiment l'impression de voir comme, OK, cette personne-là a tellement bâti quelque chose que là, tu sais, ça revient un peu à ce que je disais tantôt, là, la scène où est-ce que elle paye des amendes parce qu'elle gaspille de l'eau dans, ouais, dans des bassins de poissons, puis qu'elle dit, je m'en fous, je vais payer les amendes, mais je veux mon bassin de poissons le plus gros possible, avec le plus de poissons possible, avec le plus d'eau possible. Puis, quand même, elle s'agite ce qu'elle veut. C'est un pouvoir qu'elle a sur les gens. Puis ce pouvoir-là, des fois, elle l'utilise pour gaspiller de l'eau en pleine sécheresse épouvantable. Des fois, elle l'utilise pour
acheter une poivrière.
Acheter une poivrière.
Oh mon Dieu, la poivrière.
Puis des fois, ben, elle l'utilise pour enlever quelqu'un du circuit. Mm-hmm. Tu sais, puis, mais je sais pas si c'est adressé plus tard, mais c'est filmé. Tu sais, tout le monde le filme avec leur téléphone. Est-ce que ça a des répercussions?
On ne revoit pas ça.
Non,
dans la
on
ne
voit
série,
pas ça non. du tout. Non. Mais c'est un peu un wet dream, ça, de fille qui fait de l'humour.
Mais oui.
Moi, te payer, puis tu ne feras plus jamais une joke. Hé, hey, deux, trois, non.
Mais ouais. En même temps.
Avoir l'argent, faire ça, j'ai deux, trois,
c'est
non.
C'est ça. Là, elle utilise son pouvoir à bon escient. Fait,
mais dans la vraie vie, si c'était arrivé, ça aurait été viral.
Ouais.
C'est sûr que ça aurait été viral. Puis elle aurait eu, là, sa fameuse, genre, je pogne avec les jeunes, là, maintenant, là. Moi, c'est, genre, j'y achète un billet demain matin, là, à cette personne-là qui fait ça, là.
Ben, soit ça trahit l'âge des auteurs, soit, ça trahit une explication comme quoi le gars, il est peut-être pas si big que ça non plus, t'sais.
Mais on s'en fout, le geste est fucked up. Mm-hmm. Tu sais, le geste, juste le geste, là, de genre, c'est sûr que ça serait sur tout. Le fait que, genre, mettons, l'équivalent d'une très grande star américaine a payé 1,69 million de dollars à quelqu'un pour qu'il fasse plus jamais de jokes, pour faire un statement sur le fait que ces jokes sexistes, ça passe plus.
Ben.
Mais semble, ça ferait les... Hey, je veux dire, il y a des gens qui donnent 10 000 piastres pour une cause, puis on fait des nouvelles avec ça pendant une semaine.
Je comprends, mais tu sais, son degré de célébrité, moi, c'est une question quand même que je me pose, parce que, tu sais, richesse, célébrité, ça rime pas nécessairement ensemble, puis tu sais, son degré de célébrité...
Est-ce pas si connu que ça?
Je pense que c'est une célébrité peut-être de niche, parce que, tu sais, dans la consécration, là, pour tout le monde qui fait des arts, là, au States, ça reste quand même de faire du cinéma. Mmh. Même les acteurs de télé sont snobés des fois par le milieu du cinéma parce que c'est des acteurs de télé. Mmh. C'est comme des acteurs de second plan parce qu'ils n'ont pas fait de film. Fait qu'à un moment donné, je me dis jusqu'à quel point... Tu sais, t'as plein de stand-up américains qui n'ont pas la notoriété de, mettons, tu sais, du monde qui ont fait du cinéma, mais qui sont probablement, tu sais, qui peuvent être mille fois plus drôles, tu sais.
Mm-hmm. Genre des Chris Rock.
Ouais, exactement. T'as un Chris Rock qui arrive, qui fait des jokes corrects et moins corrects, comme on aura vu au dernier gala des Oscars. Et en fait, t'as des gens qui sont mille fois plus drôles que ce gars-là, qui ont des choses beaucoup plus intéressantes à raconter en stand-up, mais qui ont pas son niveau de notoriété. Mm-hmm. Et qui font beaucoup d'argent quand même. Mm-hmm. Fait que, dans quelle catégorie elle entre, puis jusqu'à quel point c'est quelque chose que culturellement on peut comprendre.
Mm-hmm. Et son public aussi. Moi, j'aurais tendance à dire que elle, tu sais, ça fait longtemps qu'elle est justement à Las Vegas dans le club en question, ben dans le casino. Elle doit avoir un public pas mal plus âgé, moins près des réseaux sociaux. Tu sais, je trouve que cette dynamique-là, qui est d'ailleurs adressée avec Eva et tout ça, fait que je sais pas. Puis c'est comme on ne revient pas dans la série là-dessus non plus.
Non. Puis même dans un club, tu sais, où t'as des jeunes avec leur téléphone, ils vont-tu filmer le numéro du dernier humoriste de l'heure qui vient de popper, ou ils vont filmer la légende qui vient faire une affaire, tu sais? Ils vont-tu la filmer, la légende?
Mais il y avait leur téléphone.
Dans la scène,
on les voit, ils ont leur téléphone.
Ouais. Ouais, mais peut-être ça n'a pas clout. En tout cas, je me demande. Ben, tu sais,
je pense que c'est parce qu'il ne voulait pas jouer là-dessus. Ça ne faisait pas partie de l'arc narratif qu'il voulait adresser.
Oui,
là.
Ça reste la fiction.
Mais j'ai l'impression que. Ben, j'ai l'impression que ça aurait dû clouter, que ça aurait dû devenir viral, que ça aurait dû comme devenir comme big juste de par la nature de l'événement.
Ben écoute, s'il y a quelqu'un dans saison 3 qui parle français, prenez des notes ici. Ramener une affaire, on le sait quoi écrire, nous autres.
Avant qu'on parte, je voudrais pas ouvrir quelque chose qui va être dur à refermer, mais vous avez pensé quoi du personnage de Marcus? Celui qui devient le CEO là, à la fin de Deborah, mais qui est son... ils sont comme conseillers.
Mais comme conseiller financier, mais ouais. personnel qui comme travaille juste avec elle, finalement.
Ouais, exact.
Et ben, je suis curieuse de voir ce qui se passe dans saison 2, parce que j'ai l'impression que dans la saison 1, on le dépeint beaucoup comme l'espèce de personnage pragmatique, mais le fait que c'est un personnage de la diversité queer et une personne afrodescendante en plus de ça, ben, ça créait comme une espèce de on casse des stéréotypes un peu.
Oui, mm-hmm. oui moi, ça m'a quand même dérangé.
Sa mère qui tripe sur la WWE. T'sais, pourquoi
pas? Ouais, en fait, j'ai sa relation aussi avec l'autre qui arrose le gazon.
Le Water Cup.
Oui. Ça. Moi, ça, j'étais juste comme, OK, là, on dirait qu'on vient de cocher une case, puis qu'on s'est dit, OK, c'est bon, on a coché la case, alors que ça aurait pu être un personnage quand même assez intéressant. Puis on donne quand même du temps d'antenne à ce personnage-là, puis dans la saison 2 aussi, même s'il est plus loin de Deborah dans la saison 2 un peu, parce qu'il ouais, finit par la rejoindre, parce qu'évidemment, elle l'appelle à l'aide, hein, parce que c'est un petit peu son chien de poche, mais et c'est encore autre relation toxique, donc vraiment, toutes les relations sont problématiques, mais ça m'a un peu...
Ben, je pense qu'il aurait pu mieux le développer en ce sens-là, du fait que... c'est visiblement quelqu'un qui a un problème avec les frontières des autres, qui a des problèmes à mettre des limites dans sa vie professionnelle, sa vie sentimentale,
familiale,
il compartimente, mais c'est comme le travail et le reste, tu sais, puis le reste c'est un genre d'ensemble flou, pas très important, puis le travail prend énormément de place. Il est heureux là-dedans? Comment il se perçoit? C'est pas clair comment lui se perçoit dans l'ensemble. Mais on nous le brosse là, mais c'est pas.
J'ai comme une épiphanie là pendant que tu parlais de ça là, Marika là. Je pense que le show, là, c'est parce que, tu sais, comme on parle de Marcus, on parle de Deborah, on parle de Eva, puis tout ça, tu sais, c'est des gens carriéristes, tu sais, d'abord et avant tout. Je pense que c'est la plus grosse
Jimmy,
affaire. C'est ça, c'est des gens carriéristes, puis tout se passe au niveau de leur relation, de réussir à gravir des échelons, garder du pouvoir, garder de l'argent. Tu sais, Marcus, il brasse la grosse argent, puis il y a clairement des talents là-dedans.
Marty aussi, on n'en a pas parlé.
Ah, mon Dieu, oui.
C'est qui, ça?
Marty, c'est le CEO de Palmetto Casino, là. Avec qui Deborah a une relation extrêmement toxique, pour ne pas le dire.
Des très belles scènes de lunch dans un beau contexte de richesse. C'est magnifique. J'aime beaucoup les scènes de lunch dans cette histoire. J'ai faim. Bref.
Moi aussi. On va manger après.
Ah oui. Tous ces gens-là ont une carrière. Si vous aimez pas les carrières, c'est pas une série pour vous.
Non, c'est vraiment une série sur
les carrières.
C'est
vraiment une série sur les carrières, puis des gens qui sont doués pour les carrières et qui sont pas doués pour l'humain et qui se rendent compte que dans le contexte de leur carrière, il va falloir qu'ils dealent avec vraiment beaucoup d'humains et qui à chaque fois font arc.
Même si vous n'aimez pas les carrières, pour les gens qui nous écoutent, on ne louange pas les carrières.
Pas du
on montre vraiment à quel point ça peut être problématique, puis comme que c'est difficile, là. C'est pas facile pour personne dans cette série-là.
On louange pas grand-chose.
Non, effectivement.
Même dans le bout où est-ce que, justement, là, on se retrouve avec Susan, là, qui a pas eu la carrière qu'elle voulait, puis qu'elle pouvait, surtout, parce qu'elle était drôle.
Oui.
C'est ça, il nous la montre comme étant quelqu'un qui était super comique, tu sais. Puis de voir qu'il y a pas de... Il y a pas d'amertume, mais oui, jusqu'à un certain point, il y a quelque chose de « ben oui, ma vie aurait pu être complètement autre chose », tu sais. Puis d'un moment donné...
Mais pas mieux.
Non, c'est ça. C'est juste... C'est pas mieux, c'est juste différent.
Exact, voilà.
Puis il y a quelque chose de pas idéalisé dans rien, en fait. Mm-hmm. C'est peut-être ça qui donne le petit côté frais à cette série-là.
Et réaliste.
Fait que tout le monde trouve ça bien, bien le fun.
Puis je pense aussi que... En tout cas, tu sais, je pense aussi que la relation, j'ai l'impression... Je peux sûrement me tromper, là... Je me trompe. OK, je vais pas parler pour la société. Je vais parler pour moi, OK? Moi, je pense que le végétarien n'est plus ce qu'il était il y a 30 ans. Puis c'est-à-dire que de plus en plus, on réalise que si c'est une carrière comme tous les autres, ben personne ne mérite d'être adulé comme tous les autres.
En effet.
Puis je pense que si... Soit tu fais tes choses de façon anonyme mais tu les fais bien, puis tout ça, ben tu mérites autant de respect que n'importe qui. Pis j'ai l'impression que cette série-là vient mettre un peu l'accent là-dessus, c'est-à-dire que comme ça, peut être pareil, ça peut être différent, ça sera pas mieux parce que de toute façon, on se fait tout chier dans un monde capitaliste qui va exploser. Voilà la conclusion de ce spectacle.
Fantastique.
De ce spectacle, de ce podcast.
De ce spectacle.
Ah, c'est un spectacle rendu là.
Merci tellement, Marika, Isabelle. Donc, je vais aller finir la série. Je vais peut-être avoir des affaires complètement différentes à dire parce que là, 10 épisodes de plus, je vais peut-être me dire comme « Je me suis trompée, j'étais dans le champ. »
La convo Facebook est encore ouverte, tu nous écriras.
Voilà. Bonne rentrée scolaire à ceux qui rentrent à l'école. Bonne rentrée à l'UQAM pour les gens de l'UQAM. Bonne rentrée de choc pour tout le monde. Et je vous souhaite donc dans la bonne humeur, dans la joie et avec beaucoup de... Oui?
Oui, bonne fête du travail à tous les carriéristes.
Bonne fête du travail. Ça s'en vient. C'est... Écoute.